Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Om
Bhagavate
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bon, on va mettre un share là-dessus. Voyons donc. Alors, page 149, ligne 32. Alors, j'essaie de mettre ça en plan. Advanced sharing options. Who can share? Bizarre, ça. Bon, share. Quoi, ça fait ça? Bon, voilà. Ça va. Oups. Voilà. Alors, vous voyez le texte? OK. Oups, 149. Bon. Virginie, est-ce que tu voudrais lire?
Oui, avec plaisir, avec Krishna. Alors, vous le pratiquez. Le Sanatana Dharma signifie ce Bhakti Yoga, parce que nous avons oublié. Tout le monde essaie d'être Dieu. Maintenant, pratiquez ici comment devenir un serviteur de Dieu. Et si vous êtes qualifié, factuellement parlant, que maintenant vous en avez la certitude, tel est le Bhakti Marga. Comme l'a dit Chaitanya Mahaprabhu, Gopi, Bharturbada, Kamalayor, Dasa, 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 Nudasha. Chaitanya Charitam Prita Madhya 13.80. Lorsque vous êtes expert à vous faire le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur du Seigneur, multiplié par 100 fois plus encore un serviteur, alors vous êtes parfait. Mais ici, tout le monde essaie d'être le Seigneur suprême. Certains utilisent à tort les mots Soham, Aham, Brahmachmi et se pensent je suis le suprême. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des mots védiques. Mais Soham ne signifie pas je suis Dieu. Soham signifie je suis aussi de la même qualité. Parce que Mameivamso Jiva Bhuta, Bhagavad Gita 15.7, comme le Jiva est un fragment de Dieu, Krishna, il est de même qualité. Tout comme vous prenez une goutte d'eau dans la mer, la composition chimique de toute l'eau de la mer et d'une goutte d'eau est la même. C'est ce qu'on appelle Soham ou Brahmashmi. Il ne faut pas mal interpréter ces mots, des textes védiques pour se mettre à penser faussement que je suis Dieu, je suis devenu Dieu. Et si vous êtes Dieu, alors pourquoi pouvez-vous devenir un chien? Est-ce que Dieu devient un chien? Non, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes de minuscules particules. Cela est également mentionné dans les sastras. Keshagra Sata Bhakshya Satada Kalpitya Sya Jiva Bhago Sa Vijneya Sa Anantiyaya Kalpate. Chaitanya Charitamrita Madhya 19.140. Notre identité spirituelle, c'est que nous sommes de la taille d'un 1/10 000ème de la pointe d'un cheveu. C'est comme une toute petite chose. Nous la divisons en 10 000 parties et une de ces parties constitue notre identité. Maintenant, cette petite identité est dans ce corps. Alors, où allez-vous la trouver? Vous n'avez aucune machine pour la trouver. C'est pourquoi nous disons Nirakara. Non, il y a Akara. mais il est si minuscule et si petit qu'il n'est pas possible de le voir avec ses yeux matériels. Nous devons donc voir à travers la version des Védas, Sastra, Chakshusha. Telle est la version du Vedanta. Nous devons voir à travers les Sastras, pas au moyen de ses yeux imparfaits. Ce n'est pas possible. Toutes ces choses doivent être discutées, comprises. Tant que nous sommes jeunes, forts, que notre cerveau fonctionne bien, alors notre vie sera réussie. Et Prahlada Maharaj donne ses conseils. Tato yateta kushala chimaya bhavam ashrita sarinam sariram porushyam yavam na vipadyata pushkalam. Srimad Bhagavatam 7.6.5. Tant que vous êtes fort, faites de votre mieux pour comprendre les enseignements de Krishna. Soyez conscient de Krishna et faites un succès de votre vie. Merci beaucoup, les dévots. Jaya. Fin.
Jaya, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Non, pas pour le moment.
OK. Alors, Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Prabhupada Ki Jai.
Jai.
Alors, il y a un thème qui revient souvent à travers les livres de Prabhupada. C'est le thème que les âmes conditionnées veulent ou se pensent Dieu. Et à cause de cela, elles ont oublié ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu simplement. Elles ne sont pas Dieu, surtout pas en qualité, oui, mais en puissance, non. Dieu est unique. Et les êtres vivants sont minuscules, comme c'était dit ici. Un dix millième, la pointe d'un cheveu, c'est notre identité. Alors, la petite particule spirituelle se trouve dans le corps, et lorsqu'elle est influencée par l'énergie matérielle de Krishna, ben, elle est sous l'illusion de penser qu'elle peut être aussi indépendante que Krishna, quand c'est tout à fait le contraire qui se passe. Elle est complètement conditionnée par la nature matérielle. Et comment est-ce que quelqu'un peut sortir de cette illusion? La question est posée.
En étant serviteur du Seigneur ou serviteur du serviteur.
Oui, mais serviteur du Seigneur, c'est qui lui a montré ça?
Mais notre maître spirituel, Lord Chaitanya, ça a commencé. Puis ensuite, ça a été de parent par an.
Oui. Et même avant le Seigneur Chaitanya.
Il y a le Arjuna et Krishna qui.
Le Seigneur Brahma. Le premier être créé dans l'univers, Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami, il dit, ah, Krishna est ceci, cela, et j'adore Govinda, le Seigneur primordial. Alors, pour adorer Krishna, on ne peut pas adorer Krishna si on n'est pas dans l'esprit de savoir que l'on est serviteur de Krishna. Sinon, quel est le point? Alors, évidemment, dans le monde matériel, il y a de tout. Il y a de tout. N'importe quoi ici dans le monde matériel. Et comme Prabhupada dit ici dans la cette teneur reportée, il dit ici à la ligne 39, page 149, il dit Mais ici, tout le monde essaie d'être le Seigneur suprême. Certains utilisent à tort les mots Soham, Aham Brahmasmi, et se pensent je suis le suprême. Mais ce n'est pas le cas. Alors, qui sont ces personnes qui vont utiliser Soham et Aham Brahmasmi pour justifier, soi-disant, qu'ils sont le Seigneur suprême? Qui sont ces personnes? Ou quel genre de personnes? Des personnes démoniaques? Prabhupada en parle dans le chapitre 16 de Bhagavad Gita, si je ne m'abuse, que ça prend des personnes vraiment démoniaques pour penser à s'identifier comme Dieu. Et que faut-il dire? De l'enseigner aux autres. Alors, ce n'est pas, comment on peut dire, on ne peut pas mettre le tout dans la balance de la vie spirituelle et penser que c'est du pareil au même. Alors, des faux maîtres spirituels qui enseignent justement à leurs disciples qu'ils sont Dieu. Maintenant, ils sont recouverts par Maya, mais quand la Maya va être éliminée, ils vont s'apercevoir qu'ils sont Dieu. Alors, ça, c'est un faux enseignement. C'est très, très nocif. Alors, c'est pourquoi le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu interdisait justement d'écouter les propos qui sont tenus par des impersonnalistes. Et la raison est simple, parce qu'en écoutant les propos prononcés par des impersonnalistes, la chance de s'engager dans le service de dévotion, de comprendre le service de dévotion, disparaît. Elle est éliminée. Alors, si on n'est pas capable de comprendre le service de dévotion, on est vraiment dans le trouble en tant qu'âme spirituelle. À ce moment-là, on n'est pas mieux que les matérialistes, peut-être même pire. Parce que les matérialistes, au moins, ça dépend desquels, là, mais s'il y a des matérialistes qui sont moindrement pieux, ils ont une chance de pouvoir comprendre un petit peu le début du service de dévotion. Mais ceux qui sont vraiment athées et vraiment anti-divins, ceux-là n'ont vraiment pas de chance. Alors, les impersonnalistes sont dans le dernier groupe s'ils sont vraiment trop endurcis dans leur compréhension de l'impersonnalisme. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, le conseil de Prahlad Maharaj, c'est que tant qu'on est jeune, qu'on est fort, qu'on a un bon cerveau, on devrait profiter de comprendre les enseignements de Krishna. Et, comme c'est dit ici, soyez conscient de Krishna et faites un succès de votre vie. Ça a toujours été aussi la conclusion de plusieurs classes, plusieurs enseignements de Srila Prabhupada. Prabhupada nous donne le portrait de la conscience de Krishna et c'est à nous de l'accepter, de le comprendre sous le plus grand nombre d'angles possibles. Prabhupada aimait vraiment utiliser en anglais, on dit scrutinizingly studying, mettons, the books, étudier de façon minutieuse les livres de Srila Prabhupada. Alors, Prabhupada insistait là-dessus, qu'on étudie en profondeur les livres de Prabhupada. Et on a une approche dans les cours qu'on donne, dans cette façon de faire, qu'on est obligé d'aller un petit peu plus profond qu'une simple lecture, d'aller creuser les détails. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'on lit un passage dans les cahiers de cours, ben, on demande toujours est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires. Et les questions et commentaires sont toujours bienvenus. Et ça aide justement à comprendre davantage le message. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Oui.
Ça s'appelle la conscience de Krishna. Quelqu'un qui est conscient de Krishna, il faut réveiller dans le fond, on va dire, sa vraie nature divine dans soi pour être conscient de Krishna. Mais c'est quoi la différence visuellement de voir quelqu'un qui est conscient de Krishna et l'autre qui se prend pour Krishna?
Ben, ça va. On a la réponse dans ce qu'on vient de lire aujourd'hui. Parce que la réponse, c'est quelqu'un qui est conscient de Krishna va pas seulement être conscient de Krishna. Il va comprendre Krishna et ses innombrables énergies et ses innombrables serviteurs. Alors, et comme Krishna dit, celui qui dit qu'il est mon dévot n'est pas mon dévot. Mais celui qui dit qu'il est le dévot de mon dévot, celui-ci est mon dévot. Alors, le Seigneur Chaitanya enseigne justement, c'est quoi la véritable identité de chaque être vivant? C'est d'être le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur, 100 fois serviteur, comme c'est dit, du maître des gopis. C'est Gopi Bharto. Gopi Bharto veut dire le maître des gopis ou l'amant ou l'objet d'amour des gopis, mais serviteur du serviteur. Ça, c'est Krishna. Et celui qui veut être un dévot de Krishna, il doit comprendre cette définition du Seigneur Chaitanya. C'est que le Seigneur Chaitanya, c'est Krishna qui enseigne la dévotion. Alors, être serviteur du serviteur du serviteur du serviteur. Alors, quelqu'un qui se prend pour Krishna, en d'autres mots, c'est comme il n'y a pas de compte à rendre à personne. Le seul compte qu'il rend aux autres, c'est de leur enseigner la même chose. C'est totalement opposé comme enseignement.
Mais oui.
Ça s'en va dans l'autre direction. Tu ne deviens pas un serviteur de Dieu si toi-même tu te prends pour Dieu. Là.
Et souvent, ils demandent à être servis.
Oui.
Comme on sert Krishna, ils demandent à ce que les adeptes les servent eux comme on sert Krishna aussi. Quoi.
Oui, et les adeptes qui sont ignorants, naïfs et ignorants, vont accepter une fausse incarnation de Dieu comme Dieu, parce qu'ils n'ont pas de connaissance, vraiment. Alors, ils sont bernés par une fausse incarnation de Dieu. Alors, comment est-ce qu'une vraie incarnation de Dieu peut être déterminée? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'en face de nous, c'est une véritable incarnation de Dieu qui est présente? Quel est le critère?
Il faut lui demander s'il peut représenter la forme universelle de Dieu.
Oui, ça c'est très très bien. Et un autre critère?
Réaliser son silence.
Oui, un autre critère. Premier critère. C'est regarder, voir si dans les Écritures, cette incarnation-là est décrite ou annoncée.
OK.
Hein? Alors, ça, c'est comme l'expression qui dit « go by the book ». Alors, okay. En cas d'ignorance, va dans le livre, va dans les Écritures, puis regarde si cette personne-là est annoncée. Et si elle est annoncée, à ce moment-là, tout va être là. Qui sont ses parents? Où est-ce qu'elle apparaît, à quelle époque elle apparaît, et quelle sera sa mission, Tout cela, c'est décrit dans les Écritures. Alors, quand ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on a affaire à un charlatan en avant de nous. Et il y en a beaucoup, surtout en Inde. Nous, on n'est pas familier avec ça, mais Prabhupada dit qu'il y en a beaucoup de ça. Des faux yogis, des faux maîtres spirituels qui pour eux autres, tromper le monde, c'est leur gagne-pain. Alors, ce n'est pas acceptable. Alors, rejeter de telles personnes et puis s'en tenir aux vraies personnes qui peuvent nous donner la vraie compréhension de la vie spirituelle. Et ça, c'est les purs dévots de Krishna. Est-ce que ça répond à la question?
Question. La personne qui se prend pour le Seigneur, bon, il doit être un peu intelligent, mais en même temps, il doit être ignorant. Il attire d'autres personnes comme lui, d'autres ignorants. Ça semble.
Oui.
Alors, si Dieu te donne l'intelligence, pour le reconnaître, c'est pas n'importe qui va être attiré par ça, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le bon chemin. Il y a quelque chose qui cloche dans sa démarche.
Oui, alors comme c'est dit, qui s'assemble, qui s'assemble se ressemble. Alors, c'est une question d'association. Alors, si on est infortuné, qu'on arrive dans une association qui est impersonnelle, c'est notre mauvaise fortune. Alors, Prabhupada utilise souvent les mots infortunés. Parfois, Prabhupada va dire « beings, they are so unfortunate ». Puis là, il décrit par la suite. Là. Alors, ils sont tellement infortunés. Et dans l'âge de Kali, tout le monde est infortuné. Alors, dans l'âge de Kali, beaucoup, beaucoup de gens, même s'ils veulent la vie spirituelle, les tricheurs les attendent. Ce n'est pas évident de tomber sur un pur dévot de Krishna. C'est un signe d'une, si on peut dire, d'une fortune inouïe qui va faire la différence dans notre vie et qui va faire qu'on va devenir comme le pur dévot. On ne veut pas dire qu'on va... On ne veut jamais prétendre qu'on va être au même niveau qu'un pur dévot, mais on va devenir un instrument pour le pur dévot. À savoir, c'est quoi quel est l'impact d'un pur dévot sur la société? Quel est l'impact? Quelle est sa mentalité par rapport à la société d'un pur dévot? C'est la question à poser, là.
C'est quoi la question exacte? Je ne la comprends pas.
Réveiller l'amour. Peut-être répéter la question.
Alors, quel est l'impact? Qu'est-ce qu'un pur dévot veut faire par rapport à la société? Ou qu'est-ce qu'il fait par rapport à la société?
Il éveille le monde pour qu'il ait la même connaissance sur leur être qu'ils sont.
Oui, mais ça, c'est ce qu'il fait. Mais disons, quel est son désir ou son intention ou sa volonté?
Réveiller et propager l'amour pour Dieu, l'amour pour Krishna.
Oui, mais avant ça. Alors, je ne vais pas vous faire chercher trop longtemps, là. Mais Prabhupada explique ça souvent. Il appelle ça para upakara. Le para upakara veut dire faire du bien pour les autres. C'est la mentalité d'un dévot.
Ouais.
Alors, avant même de prêcher, le dévot comprend, il faut que je fasse du bien pour les autres parce qu'ils ne font pas de bien eux-mêmes. Puis ils sont dans les filets de Maya. Alors, il faut que je fasse du bien pour eux autres. Alors, suite à ça, les activités dévotionnelles, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, d'écouter Kirtanam, parler de Krishna, distribuer la conscience de Krishna, pour les amener, les personnes, l'auditoire, eux aussi, à se souvenir de Krishna, à devenir conscient de Krishna. Ça, c'est des activités de la conscience de Krishna. Ce sont des activités bénéfiques. C'est les seules activités, en fait, qui sont bénéfiques pour la société. Comme Prabhupada dit, c'est les plus hautes activités de bien-être pour la société. C'est, en anglais, il dit « the highest welfare work ». Ça, c'est Prabhupada qui décrit ça comme ça. Alors, c'est le travail pour aider, les actions posées pour élever les gens dans la conscience de Krishna. Alors, une des activités qui est propre au mouvement de la conscience de Krishna et qui est justement favorise un déploiement à grande échelle, autant que possible, pour aider les gens à prendre un pas en avant dans la conscience de Krishna. Quelle serait une de ces activités?
Prêcher.
Pardon?
Distribuer le livre, prêcher.
Oui, ça c'est une chose, mais disons, l'activité qui est le plus grand déploiement, pratiquement parlant.
Distribuer du prasad.
Les kirtans.
Les kirtans.
Les mantras.
Non.
Le prasad.
Tout ça, c'est inclus dans une activité.
Nourrir l'âme.
C'est Ratayatra.
Ratayatra.
Le festival des chariots. C'est un déploiement à grande échelle. Cette journée-là, quand il y a le défilé de Ratayatra, c'est des milliers de personnes qui ont un regard sur les dévots, sur une activité dévotionnelle qui est la procession du Seigneur Jagannath dans les rues. Alors, qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça? Alors, il y a Kirtanam, le chant, il y a distribution de prasad, il y a Darshan, c'est-à-dire voir les déités, offrir ses hommages aux déités, Jagannath, Baladev, Subhadra, et parler avec des dévots. Il y a les livres de Prabhupada qui sont disponibles. Ça, c'est à mon avis personnel, je trouve que c'est le plus grand déploiement de la conscience de Krishna. Ça arrive une fois par année. Et puis, c'est merveilleux. Il y a des gens qui vont devenir dévots de Krishna juste à cause de ce festival-là. Et il y a aussi, si on veut, ajouter au Ratayatra, ben, il y a les conférences publiques pour le grand public. À la télé, si ça donne, mais dans des grandes salles, comme Prabhupada faisait. Prabhupada, les dévots organisaient des conférences pour lui dans des salles bien connues, comme à Paris, ils l'ont fait, là. Ils ont décroché l'Olympia de Paris pour que Prabhupada aille donner une conférence. Et la première fois que Prabhupada est allé là, il n'y avait pas un chat qui s'est présenté. Il n'y avait personne. Il y avait juste les quelques dévots. Et c'est tout, il n'y avait personne. Et là, à un moment donné, les dévots ont appris, les dévots parisiens, là, ils ont appris de cette... contre-performance, entre guillemets. Et là, Prabhupada venait pratiquement une fois par année à Paris. Et en 1974, les dévots ont loué. En tout cas, je sais pas comment ils ont fait leur compte. Moi, j'étais pas dans l'administration à ce moment-là, mais j'étais là. Alors, les dévots ont eu la salle Pleyel à Paris, qui est une salle d'une capacité de 4000 personnes. Et là, à Paris, les dévots ont fait de la publicité partout dans Paris, avec le titre de la conférence, qui allait venir, qui, c'est Prabhupada, évidemment. Et le titre, là, c'était la réincarnation, la métempsychose, mythe ou réalité. Ça, c'était le titre de la conférence. Et les dévots, pendant 6 mois, jour après jour, ils allaient mettre des affiches partout dans Paris. Et évidemment, la conférence était gratuite. C'était pas payant, cette conférence-là. Et le jour venu, la salle était pleine. Là, les dévots avaient vraiment réussi à remplir cette salle-là. Et Prabhupada a fait sa conférence. Et évidemment, il y avait des étudiants parisiens là-dedans. Il y en a un en particulier, on ne connaît pas le nom, mais qui a osé défier Prabhupada. Ça, j'ai déjà raconté ça. Il avait dit à Prabhupada, « Pourquoi vous êtes assis dans ce gros siège-là? » Et lui, il a dit, « Si vous avez les qualifications, vous aussi, vous pouvez venir vous asseoir dessus. » Alors, ça, c'est aussi la beauté de Prabhupada, un pur dévot de Krishna, qui a une réponse à tout. Ça, c'était Prabhupada. Il y avait toujours une réponse, souvent était surprenante pour ceux qui l'écoutaient, mais combien la réponse était d'aplomb, était appropriée, était profonde, était bien pensée. Ça, c'était merveilleux. Et c'est une des raisons pourquoi les dévots, les disciples de Prabhupada étaient tellement, dans une certaine mesure, très fiers de Prabhupada. Sans le penser, c'était pas un orgueil, mais c'était juste la joie de savoir que Prabhupada était capable de répondre à n'importe quoi, de n'importe qui. Et c'était agréable. Ça, c'est décrit dans le Srimad Bhagavatam, 3e chant, les enseignements du Seigneur Kapila Dev, que les sujets qui ont trait à Krishna sont très doux à l'oreille et au cœur. C'est dans Srimad Bhagavatam. Alors, avec un pur dévot de Krishna, c'est comme ça que ça se passe. C'est toujours délectable, les propos liés à Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Merci.
OK. Alors, ici, on va expliquer. Il y a un autre thème qui revient assez souvent dans les livres de Prabhupada, à savoir les différences entre Nirakara et Akara. Ça, c'est la page 150, ligne 17. Alors, Nirakara, Akara veut dire une forme. Et Nirakara veut dire pas de forme. Alors, les impersonnalistes, leur enseignement, c'est que l'âme va se fondre dans le Brahman suprême, puis elle perd son identité. À ce moment-là, elle devient Nirakara. Mais, c'est dit ici, Akara, Prabhupada dit ici, il y a Akara, mais il est si minuscule et si petit qu'il n'est pas possible de le voir avec ses yeux matériels. Alors, où est-ce que Krishna parle aussi de Akara? Que Krishna en parle. Krishna en parle dans la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Gita.
Mm-hmm.
Et l'âme spirituelle, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, l'âme spirituelle ne peut être coupée par aucune arme, ne peut pas être brûlée par le feu, ne peut pas être noyée par l'eau. Elle est éternelle. Elle est immuable. Alors, elle est. On peut pas. Cette philosophie nirakara, à savoir que l'âme, à un moment donné, ne va pas avoir de forme, ça ne tient pas debout. Mm-hmm. Ça ne tient pas la route. Alors, c'est important de comprendre ça. Et akara veut dire que l'âme a une forme. Et Prabhupada donnait l'exemple aussi, c'est comme vous mettez un vêtement, et le vêtement lui-même n'a pas de forme. Ça prend le corps qui revêt le vêtement pour que le vêtement ait une forme. Sinon, il n'y a pas de forme. Mm. Et les éléments matériels, quand l'âme quitte le corps, les éléments matériels vont être détruits et finalement disparaître en poussière ultimement. Comme c'est dit dans la Bible, souviens-toi, tu es poussière, tu vas retourner en poussière. Et voilà. Est-ce que des questions, des commentaires? Oui?
Question. L'âme est beaucoup plus subtile que l'eau. Elle est beaucoup plus fluide, je ne sais pas, là, vous dire. Si on prend une goutte d'eau et on la met dans l'océan, on ne la verra plus où est-ce qu'elle est rendue l'eau, cette goutte d'eau-là.
Mm-hmm.
Avec l'âme, c'est dur à comprendre. Pas que je n'y crois pas, là, mais c'est dur à saisir comment, dans le tout, elle devient toujours individuelle, sans se fondre avec le tout. Là. C'est comme une flamme, elle se perd dans la masse de flamme. On ne sait pas ce qu'elle est.
Oui, mais l'âme n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, on a lu ça aujourd'hui, il y a un verset là, Bhagavad Gita, chapitre 15, verset 7. Et Krishna dit ça ici, là, page 149, ligne 42. Parce que Mamai Vangso, Jiva Bhuta, Bhagavad Gita 15, 7. Alors, comme le Jiva est un fragment de Dieu, Krishna, il est de même qualité. Tout comme vous prenez une goutte d'eau dans la mer, la composition chimique de toute l'eau de la mer et d'une goutte d'eau est la même. C'est ce qu'on appelle Soham ou Brahmasmi. Il ne faut pas mal interpréter ces mots des textes védiques pour se mettre à penser faussement que je suis Dieu, je suis devenu Dieu. Voilà. Alors, on est une partie, une parcelle de Krishna, c'est tout ce qu'on est. Alors, dans la page 150, le verset sanskrit, là, c'est Keshagra Sata Bhagasya. Ce verset-là, c'est dit qu'on le trouve dans le Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1940. Mais ce verset-là c'est une citation du verset qui lui vient d'ailleurs. Et Prabhupada l'utilise assez souvent dans ses livres. Et ça veut dire la dimension de l'âme spirituelle, elle est un dix millième la pointe d'un cheveu. Alors, très petite, mais on ne peut pas dire. L'âme est tellement petite parce qu'elle devient zéro. Il n'y en a plus. Et comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, l'âme est immuable. Elle est éternelle. Il y a un verset comme ça dans la Bhagavad Gita. Alors, elle est irréductible. Tu ne peux pas la réduire plus que ça, là. Alors, comme on voit dans la vie de tous les jours, il y a, évidemment qu'on a des sens imparfaits, là. Mais avec nos sens imparfaits, on peut avoir une certaine notion qu'il y a l'infiniment petit et il y a aussi l'infiniment grand. Et l'âme est répartie tout partout, dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand aussi. Alors, c'est comme on lit parfois dans, on lit, pas parfois, mais dans le livre de Krishna, des êtres démoniaques qui sont comme Putana quand elle a été tuée par Krishna, son corps s'étend sur des kilomètres. Et c'est une petite âme spirituelle. Un éléphant, c'est un gros animal, mais c'est une âme spirituelle. Encore un dix millième le pointe d'un cheveu. Puis si on regarde au microscope, les virus, les bactéries, les microbes, on ne peut pas les voir avec nos yeux, mais ils sont vivants. Oui.
Le corps est fait de milliards, de milliards, de milliards de bactéries. C'est, dans le fond, c'est comme ça serait des milliards et des milliards de petites âmes, mais qui font le moi conscient, là, de l'âme qui contrôle toute cette masse. Est-ce qu'on peut dire qu'un peu c'est dans cet esprit-là de direction que Krishna, veut dire, il faudrait le visualiser un peu là, comme dans le Krishna, puis tout le Krishna, je ne sais pas comment le... Comme il y a le moi, l'âme qui anime ce masque-là, mais il y a des milliards de petites bactéries qui font, on va dire, que j'ai du sang qui coule, les aliments déchiquetés, l'énergie aller par là. C'est comme un gros univers. Est-ce qu'on peut mettre ça un peu dans la direction de penser pour Krishna, pour le voir, pour le saisir?
Ben, Krishna, c'est, comme dit la Isha Upanishad, c'est Om Purnam Adah Purnam Idam, c'est le tout complet. Alors, Krishna a trois énergies. L'énergie matérielle, l'énergie spirituelle et l'énergie marginale qui est entre les deux. L'énergie marginale qui peut s'associer avec la matière ou s'associer avec l'énergie spirituelle de Krishna. Mais Krishna est le tout complet. Et en même temps, Krishna est séparé de tout ça aussi. Krishna a sa propre forme, sa propre demeure, et Krishna aussi est omniprésent. Comme on dit, Krishna est présent à l'intérieur de la tombe et même à l'extérieur de la tombe. Alors, ça, c'est inconcevable. Alors, comment est-ce que l'on sait tout cela? Ben, c'est parce qu'on accepte la version des Védas. Les Védas sont parfaits. Et comme on a lu aujourd'hui aussi, ce qu'on a lu aujourd'hui, Shastra Chakshusha, voir à travers les Shastras, et puis si on se fie seulement à nos yeux matériels, on va penser le soleil est un petit disque. Mais en fait, si on veut comprendre le soleil, il faut lire des livres sur le soleil qui vont nous expliquer que le Soleil est une planète qui est plus volumineuse que même plusieurs planètes réunies. Alors, nos sens sont imparfaits. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait comme, comme Prabhupada, ce qu'on vient de lire aujourd'hui, là. C'est pas dit spécifiquement, mais c'est sous-entendu. La première petite phrase qu'on a lu aujourd'hui, ça se lit. Alors, vous le pratiquez. Vous pratiquez quoi? Le Sanatana Dharma signifie Bhakti Yoga. Alors, vous le pratiquez. Alors, c'est ça, la vie dévotionnelle. C'est qu'on pratique, 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 pratique. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. On écoute le message des Védas. Et parce que on a une attitude dévotionnelle, le message affecte notre conscience. On laisse notre conscience être transformée par le message des Védas. Et quel est le but des Védas? La question est posée. Quel est le but des Védas?
De nous donner la connaissance, c'est de comprendre tout ça.
Mais comprendre quoi? La connaissance de quoi?
Qui est le Seigneur et c'est quoi notre position dans tout ce contexte. Tout est Dieu, tout est Krishna, partout Krishna se trouve. Mais nous, on est dedans, dans tout ça. On ne perd pas notre individualité. On est serviteur de sa volonté. C'est ça le Veda qui nous enseigne un peu, non? C'est là.
OK. Virginie?
Comment est-ce qu'ils nous permettent de retrouver notre chemin, de retourner à Dieu, de nous retrouver à nous abandonner à Krishna, à retrouver back to Godhead?
Ouais.
Ce sont les clés, les Védas, ce sont les clés, justement. Avec ouais. Le maître spirituel, bien évidemment, parce que sinon les Védas tout seul, on va vite se perdre si on n'a pas l'enseignement du maître spirituel.
Oui. Alors, qu'est-ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita? Le but des Védas. Prabhupada pose cette question-là souvent, souvent, souvent dans ses classes. Quel est le but des Védas? Hein?
De comprendre Krishna, c'est leur but.
C'est juste ça. Alors, Krishna dit à âmes, comment il dit ça donc? En tout cas, il y a un verset Bhagavad Gita, chapitre 15. Krishna dit, je suis le but de l'étude des Védas. Ça, c'est Krishna. Sarva Vedaist, Sarva Miva Vedio. En tout cas, Krishna dit, je suis le but des Védas. Alors, le but des Védas, c'est d'apprendre à connaître Krishna. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires?
Juste un petit commentaire. On n'arrivera jamais à comprendre Krishna. Il est trop immense. Et nous, on avait une petite tête. La petite tête qu'on a, on va dire comment pouvons-nous croire qu'on va comprendre Krishna un jour? Je n'arrive pas à comprendre qu'on pourrait le comprendre. Il est infini. Comme c'est impossible.
Ça aussi, Prabhupada en parle dans ses livres. Qu'on peut pas comprendre Krishna au complet parce que Krishna est infini. Mais on peut en comprendre une petite partie. Alors, quand quelqu'un fait une classe, quand quelqu'un parle de Krishna, et par exemple, prenons le Srimad Bhagavatam. L'histoire, le contexte du Srimad Bhagavatam, c'est que, qu'est-ce que le Srimad Bhagavatam? C'est le dialogue entre Sukadev Goswami et Maharaj Parikshit. Ce dialogue-là, il y a un dévot, il y a beaucoup de dévots qui l'ont écouté, qui l'ont entendu, mais il y en a un qui le raconte, qui lui s'appelle Sutta Goswami.
Sutta Goswami.
Et il y en a d'autres sages qui ont entendu, puis là, on dit, ah, c'est les sages de Naimisharanya qui sont assemblés pour écouter le Srimad Bhagavatam. Alors, à un moment donné, dans le Srimad Bhagavatam, là, c'est dit, ah, les sages ont posé telle question, et là, tel dévot va répondre. Une série de dialogues très instructifs, le Srimad Bhagavatam. Alors, c'est comme ça. On reçoit la connaissance à travers les dévots. Et ce matin, je lisais ça de Prabhupada dans une classe de Prabhupada, qu'on ne peut pas avoir de connaissance par soi-même. Alors, on peut avoir la connaissance dans la mesure où la connaissance nous est donnée par d'autres. Alors, si on regarde dans notre vie, qui sont les personnes qui nous ont donné les premiers éléments de connaissance?
Nos parents.
Exactement, nos parents. Et ensuite, les éducateurs à l'école, les professeurs, et ainsi de suite. Et là, un jour, on a rencontré des dévots. Pratiquement parlant, il n'y a pas un dévot qui ne peut pas nous apprendre quelque chose. N'importe quel dévot peut nous apprendre quelque chose. Et pas juste des dévots, même des non-dévots peuvent nous apprendre quelque chose aussi, parce qu'eux autres aussi, ils ont des réalisations. sais, genre, le, mettons, la, toi, t'es le petit bonhomme de 6-7 ans qui veut traverser la rue, puis la, la police voit que tu vas te faire écraser si tu traverses à tel moment de, la rue, puis il te dit, « Hey, traverse pas, il y a une voiture qui s'en vient. » Puis toi, si tu écoutes, tu t'en souviens après, un jour dans mon enfance, il y a une police qui m'a dit de ne pas traverser parce que c'était dangereux. Putain, j'ai inventé une histoire, là. Mais il y a des faits comme ça dans la vie qui nous donnent des leçons de vie qu'on appelle. Et, alors, on apprend. La vie nous montre des choses, les autres nous montrent des choses, les Écritures nous montrent des choses. Et puis, c'est à nous de... Donc, d'analyser, d'accepter les bonnes leçons, et puis... Alors, quelle est... Prabhupada aussi explique quelle est la différence entre un dévot et un non-dévot. C'est que le non-dévot, par exemple, prenons Prahlad Maharaj et Hiranyakashipu. Ces deux-là, là. Et Prabhupada explique, voici la différence entre un dévot et un non-dévot. Le non-dévot, alors comme Prahlad Maharaj, même s'il était le père de... Non, Prahlad Maharaj était le fils d'un des plus grands démons de l'univers. Alors, Prahlad Maharaj donne des bonnes instructions à son père, et son père est complètement réfractaire à ces bonnes instructions-là. Alors, Prabhupada dit... La différence entre un dévot et un non-dévot, c'est que le non-dévot, même s'il reçoit des bonnes instructions, ne va jamais les accepter. Tandis qu'un dévot va les accepter. Alors, pourquoi est-ce que le dévot va les accepter, les bonnes instructions? Ça aussi, c'est un bon point.
Parce que ces instructions-là sont pour évoluer sa conscience, tandis que celui qui est non-dévot, et ça n'aide pas son ego. Lui, il n'y a pas d'évolution dans ça.
Mais oui. Ouais. Son éveil spirituel lui permet de voir que c'est des bonnes choses, que ce sont des bons conseils, contrairement au non-dévot qui, lui, est dans l'ignorance et reste dans sa position égoïque, soit je ne crois pas en Dieu, ou soit, etc. Mais le dévot, lui, va reconnaître dans ses conseils ce qui lui permettra de devenir un meilleur dévot, en fait.
Oui, mais à la base, pourquoi est-ce que le dévot a une attitude favorable de cette façon-là? Qu'est-ce qui fait que le dévot est ouvert à recevoir des bonnes instructions?
Parce qu'il est conscient.
Il cherche à évoluer, c'est dans la conscience.
Il est conscient.
Oui, mais les gyanis aussi cherchent.
Est-ce que ils cherchent la matière.
Hmm?
Ils cherchent la matière. Ils cherchent
non.
Les sensoriels.
Non, ça c'est les karmis, pas les gyanis.
Les gyanis, c'est la connaissance.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'un dévot est ouvert, réceptif aux bonnes instructions? C'est son humilité. Parce que le dévot, comme Krishna dit dans le Bhagavad Gita, c'est quoi les critères pour obtenir la connaissance? Le premier, c'est l'humilité. Le premier facteur. Alors, comme on a lu aujourd'hui, serviteur du serviteur du serviteur du serviteur. Et là, Prabhupada nous dit ici, multipliez ça par 100 fois. Et là, Prabhupada écrit ici, alors vous êtes parfait. Alors, ça veut dire raffiner, être le serviteur du serviteur du serviteur. Et ça, c'est applicable dans le quotidien, ça. Voir n'importe quel être vivant puis dire, OK, moi je suis serviteur de cet être vivant-là. Comment est-ce que je peux le servir? Alors, est-ce que c'est juste des dévots qu'on doit servir?
Tout. Tout est Dieu. Tout est Krishna.
Oui, là, je parle spécifiquement parlant, est-ce que c'est juste les dévots qu'on doit servir? Bon, disons, faisons la réponse courte, là, un choix, c'est oui ou c'est non, là. Est-ce que juste les dévots qu'on doit servir?
Moi, je dirais non.
Moi aussi.
Moi non plus, je dirais non.
Ce bon. Krishna est dans le cœur de chaque être, donc
c'est simple.
Quand on sert, quand on aide quelqu'un ou quand on sert quelqu'un avec, bien sûr, en respectant certaines règles, hein, on sert aussi Krishna indirectement.
C'est ça.
Ou directement.
Ouais. Alors, comme par exemple, la distribution de prasad. Tout le monde est bénéficié. Les êtres humains, et même les êtres qui, par exemple, c'est des petites miettes de prasad qui tombent à terre, puis la petite fourmi s'en va ramasser un petit grain de halava. Elle aussi, elle a le prasad.
Ouais.
Le dévot en donne à tout le monde, lui. Mais ça, c'est la beauté de la conscience de Krishna. Mm. C'est le dévot, c'est un mahatma. C'est une âme libérale, une âme ouverte. Pas un esprit fermé qui pense juste à sa gratification des sens. Mahatma, faire du bien pour la société, que ce soit humaine ou pas humaine, le dévot essaie de faire du bien.
Essayer d'alléger les souffrances, en fait.
Oui, il y a ça aussi. Alors voilà, la conscience de Krishna, par exemple, tu fais un kirtan.
C'est ça.
Comme chez le Baptiste Danta avait enseigné, supposons qu'il n'y a personne à une conférence. Alors, il disait, à ce moment-là, prêchez pour les murs. Alors, la conscience de Krishna, c'est la vibration sonore aussi qui se promène. Alors, la vibration, la connaissance spirituelle, elle vient d'où? On parle monde pour monde, là. Pas de personne, on parle monde pour monde. La connaissance spirituelle. Pardon?
Du monde spirituel.
Exactement. La connaissance spirituelle vient du monde spirituel. Elle est véhiculée par les dévots. Alors, ce n'est pas une connaissance matérielle. Alors, voilà. Alors, c'est une connaissance, justement, qui est appelée Shruti. C'est une connaissance qu'on peut avoir, réaliser cette connaissance-là, seulement par l'écoute. Ça, c'est Shruti. Alors, les Védas sont appelés Shruti. On l'accepte, on la comprend par l'écoute. Et comme on est limité dans notre réalisation, ça ne veut pas dire qu'on va rester toujours au même point, mais à force d'écouter, notre réalisation de la spirituelle augmente en écoutant les propos qui ont trait à Krishna. Ça, c'est la beauté aussi. Des fois, on ne comprend pas du premier coup. C'est comme les versets en sanskrit qu'on lit pendant la lecture. On ne comprend rien. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, surtout s'il n'y a pas de mot à mot, comme aujourd'hui. Mais ça a un effet purificateur. C'est le sanskrit ou le bengali dans le cas de Chaitanya Charitamrita. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, on va commencer l'autre module, qui est le module 8. Ananda, est-ce que tu voudrais lire?
Oui, bien sûr. Rejoindre Krishna. C'est là, dans le monde spirituel, que règne Shri Krishna, la personne suprême. Ainsi que l'indique la Bhagavad Gita 8.22, le seul moyen de l'approcher est le pur service de dévotion. ni le dhyana, la recherche philosophique, ni le yoga, la recherche des pouvoirs surnaturels, et encore bien moins le karma, l'action intéressée, ne permettent de le faire. Les karmis peuvent s'élever jusqu'au Svargaloka, planète supérieure comme le soleil et la lune. Les yagnis, les yogis, eux, peuvent atteindre des planètes plus élevées encore comme Brahmaloka, Marloka ou Tapoloka, d'où ils peuvent continuer à progresser en pratiquant les services de dévotion jusqu'à entrer dans le monde spirituel, soit dans la lumière du Brahman irradiant du royaume de Dieu, soit sur les planètes spirituelles selon leur mérite. Une chose est certaine, cependant, personne ne peut entrer dans les planètes spirituelles, les Vaikuntha Loka, s'il n'a pas pratiqué le service de dévotion.
Oui.
8.1. C'est là, dans le monde spirituel, que règne Shri Krishna, la personne suprême. Le point 8.1 est facile à lire, à comprendre. De prime abord, oui. Notre réaction, joie et certitude que c'est vrai vu la source de notre connaissance. Dans ce cas-ci, qui s'avère Srila Prabhupada, reconnu comme un pur bhakta. Et comme son titre de Prabhupada l'indique, il s'agit d'un maître spirituel au pied duquel se tiennent les autres maîtres. Y a-t-il lieu de douter du point 8.1? Un franc non. Mais l'on peut s'interroger. Pourrais-je un jour être admis dans la compagnie de Shri Krishna? Serais-je un jour qualifié pour y être admis? À partir de ce moment, notre confiance en cette possibilité commencerait-elle à être mise en question? Après mûre réflexion, peu importe si oui ou non, la réponse doit être oui, car Krishna est après tout l'objet de notre abandon. Et il est notre seul espoir, notre seul refuge qui vaille. Mis à part lui, nous n'avons aucune confiance de nous abandonner à quelque chose de temporaire en quelque coin du monde matériel. En d'autres mots, nous n'avons pas vraiment le choix que de prendre refuge en Krishna. C'est le seul choix qui fasse du sens, tout point de vue considéré. Voilà enfin qui est tout de même rassurant, voire très rassurant. Encore une fois, bravo pour la rassurance. Notre cœur est inspiré de joie, mais permettons-nous un petit bémol. Avant de sauter de joie à la seule pensée de retrouver Krishna un jour, il nous faut comprendre quelles doivent être nos qualifications préliminaires. Voilà qui fait partie de ce que veut dire comprendre Krishna. À cet effet, quoi de mieux que de profiter des enseignements de Srila Prabhupada? À la lumière de ces derniers, nous serons éclairés sur le sujet qui nous occupe. À cet effet, nous avons opté de vous présenter une classe de Srila Prabhupada sur le Srimad Bhagavatam 1.8.40, donnée à Mayapur le 20 octobre 1974. Le verset porte sur une prière de la reine Kunti, la tante de Krishna. Pradyumna, ime yagna pada srida supak vosadi viruda vanadri nadi undanvanto i edante tava vikshitai. Srimad Bhagavatam 1.8.40. Ime tousse yana pada ville et village sri vrida florissant. Pagva, nature. Oshyadi, herbe. Viruda, légume. Vana, forêt. Adri, colline. Nadi, rivière. Udanvantaa, mer. Hi, certes. Edante, croissant. Tava, par toi. Vikshitai, vu. Ville et village Ville et village sont en tout florissants. Herbes et céréales poussent d'abondance. Les arbres sont lourds de fruits, les rivières coulent à flot, les collines regorgent de minéraux et les océans foisonnent de richesses. Toutes ces merveilles, ton regard seul en est la cause. Tenez reporté. Ce sont les dons de la nature qui rendent une société prospère, et non les vastes entreprises industrielles. Ces dernières sont les produits d'une civilisation athée. Elles ont pour effet de faire oublier à l'homme les nobles buts de son existence. Plus l'homme fait s'accroître leur nombre, plus il se vide de son énergie vitale. Et ces entreprises permettent à un petit nombre de vivre par tyrannie, dans la plus grande aisance. Les hommes, dans leur masse, n'y trouvent qu'agitation et frustration, toujours grandissante. Sur l'ordre de l'être suprême, la nature matérielle fait aux hommes d'innombrables présents. céréales, fruits et légumes, rivières, eaux limpides, montagnes riches en joyaux et en minéraux, océans où foisonnent perles et pierres précieuses. Selon le désir du Seigneur, ces ressources sont tantôt abondantes, tantôt restreintes. Selon les lois naturelles, l'homme doit apprendre à tirer parti de ses dons divins pour prospérer jusqu'à pleine satisfaction, sans toutefois se laisser captiver par le désir de dominer et d'exploiter la nature matérielle, chose d'ailleurs impossible. En effet, plus nous cherchons à pressurer la matière en vue d'étancher notre soif égoïste et capricieuse de plaisir, plus nous nous empiégeons dans les conséquences de nos actes. Pourquoi dès lors, quand la nature produit suffisamment de céréales, de fruits, de légumes et d'herbes, enfreindre ses lois et ouvrir des abattoirs? Pourquoi faire périr de pauvres bêtes et ainsi courir le risque de connaître vie après vie un sort identique? Nul besoin pour l'homme de tuer des animaux et d'en consommer la chair quand les aliments végétaux s'offrent à lui en quantité suffisante. L'eau des rivières fertilise les terres au point que celles-ci produisent plus que ce dont l'homme a besoin pour sa subsistance. Les montagnes recèlent des minéraux et les océans produisent naturellement des gemmes. Pourquoi donc l'homme, riche de céréales, de minéraux, de pierres précieuses, d'eau, de lait, etc., voudrait-il de ces monstrueuses entreprises industrielles qui tournent grâce au labeur d'infortunés? Cependant, nous dépendons de la miséricorde du Seigneur pour l'obtention de ces dons naturels. Notre rôle est donc d'obéir aux lois de Dieu, cela en vue d'atteindre par la pratique du service de dévotion la perfection de la vie humaine. Les prières de Kunti Devi étaient donc on ne peut plus appropriées. Elle souhaitait que Dieu continue de répandre sa grâce sur tous les habitants du royaume pour que leur prospérité naturelle ne connaisse pas de fin.
Allez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
C'est simple, c'est beau. Krishna, il fournit tout. Tout est là.
Oui, Krishna fournit tout. Et Krishna aussi fournit toute la misère qui est méritée par ceux qui brisent les lois de la nature. Alors, dans un cas comme dans l'autre, c'est Krishna qui organise tout. Oui.
Est-ce que ce n'est pas les conséquences, en fait, au-delà de Krishna, c'est les conséquences des actions pécheresses des humains qui engendrent leur propre misère, en fait, quelque part.
Absolument. Absolument.
Parce que moi, je vois dans mon domaine professionnel, pour faire court, aujourd'hui, on détecte des molécules qu'on n'aurait jamais imaginées dans l'eau, mais toutes ces molécules, elles sont issues des industries, des fameuses usines qui sont décrites là dans le... et qui, depuis les années 50, 40, même avant ça, déjectent dans la nature des choses qui ne sont pas bonnes. Et pour le confort et le bien-être matériel d'une minorité d'humains sur la planète, on est en train de détruire tout ce qui est... Mais ça, en fait, c'est l'action de l'homme. Tous ces cancers qui arrivent et qui qu'on n'explique pas, mais maintenant on commence à comprendre parce que les eaux sont polluées, l'air est pollué, tout est pollué par ces industries, ces fameuses industries.
C'est ça. Alors si on regarde un peu l'histoire de la société humaine, le tout commence, si on peut dire comme ça, là. Le tout commence avec la révolution industrielle en Angleterre, qui est dans les 1800 quelque chose. Ouais. Et après, ça fait boule de neige. Alors, pourquoi? On pose la question, ne répondez pas. Mais à la lumière de ce qu'on vient de lire aujourd'hui, c'est comme incroyable. Pour les gens, disons, conditionnés que nous sommes à l'époque d'aujourd'hui, pour nous, le succès qu'on nous a enfoncé dans les oreilles depuis des années, c'est le développement économique. Ce sont justement les usines et compagnie. C'est ça le succès. Mais vive, et Prabhupada, lui, il enseigne, il arrive comme ça avec une autre philosophie qui s'en va dans l'autre sens, complètement dans l'autre sens, et que Prabhupada résume en disant « une vie simple vouée à de hautes pensées ». Ça, c'est ce que Prabhupada veut comme style de vie chez les dévots. Et il, c'est pourquoi Prabhupada a institué des fermes, des communautés rurales, pour justement revenir à une dépendance de la terre et des vaches. Et comme Prabhupada dit, les vaches, on l'a déjà lu ça, les vaches, comment on dit ça, le verbe, résoudre, résolve, ça se dit-tu ça? Résolve tous les problèmes de l'humain au niveau de la nourriture, simplement avec le lait, les produits laitiers. Évidemment, ça prend plus que ça, là. Mais les grands sages, ça Prabhupada l'écrit dans le Srimad Bhagavatam, dans le tenant à portée, que les grands sages, il y a très très longtemps, pouvaient vivre juste avec un peu de lait. Ils avaient un lota rempli, allaient chercher, on le lit ça dans le Srimad Bhagavatam, un sage restait chez un grihastha, c'est-à-dire un chef de famille, le temps de traire suffisamment de lait pour mettre dans son pot. Et après, il s'en allait. Et il vivait comme ça. Évidemment, c'était pas du lait qu'on connaît aujourd'hui, là, homogénéisé ou pasteurisé.
Sans vaccin.
Hein?
Sans vaccin, les vaches.
Oui, et sans vitamine D ajoutée. La foutue vitamine D3. En fait, c'est de l'huile de foie de morue. Et il y en a partout. C'est dans le lait qu'on achète. Et on ne peut pas s'en passer. On n'est pas pour dire, hey, moi, ça me prend du lait de vache. C'est pas pratique. En tout cas, si vous voulez chercher, vous pouvez chercher. C'est bien si vous en trouvez, mais en général, c'est le lait qui se vend dans les supermarchés, point final, that's it, that's all. C'est ce qu'il y a de plus pratique à portée de la main. Et c'est comme ça. C'est le Kali Yuga. Et comme une fois, les dévots avaient dit à Prabhupada que le sucre blanc, pour faire le sucre blanc, dans le processus, ils utilisent des os, des animaux. Et Prabhupada, il avait répondu, il dit, on n'est pas pour arrêter de manger du sucre. Alors, quand on fait les sucreries pour Krishna, pour le Mangal Arati, c'est fait avec du sucre, sucre blanc. Alors, c'est le Kali Yuga, il faut prendre qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui est pratique? Alors, on n'a pas de perfection, disons, matériellement parlant, mais parce qu'on offre le fruit de nos actions à Krishna, ben, Krishna, c'est lui qui fait toute la différence et nous permet d'évoluer, de progresser dans la conscience de Krishna. Et puis, voilà. Par la grâce de Prabhupada, c'est ça qui est merveilleux avec Prabhupada, c'est qu'il y a toujours des instructions à gauche et à droite qui nous indiquent, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est moins bon. Mais des fois, même quand c'est pas bon, comme dans le cas des aliments, il faut y aller, pareil, il n'y a pas le choix. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Okay. On peut quand même essayer de faire le tri. Tu parlais du sucre tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas évident, mais tu peux trouver peut-être du sucre qui est pas raffiné, parce que y a toujours peut-être des possibilités aussi qui sont ouvertes où tu vas pouvoir quand même. Mais ouais. La simplicité, je pense qu'il faut être simple dans notre façon de nous nourrir et de parce que c'est ça qui est le plus facile en fait. Pour éviter de manger trop de cochonneries.
Oui, c'est ça. Il faut selon temps, circonstance et individu.
Mm.
Alors, c'est du sucre naturel qui est correct. Ça va. Ça va passer. Alors, c'est à chacun de voir dans son coin de pays.
C'est ça. Parce que je suis là pour Boupette, quand il a dû venir en Occident, il a dû, effectivement, lui, il était sûrement habitué au bon sucre bien roux qui est qui fait à partir de la canne à sucre et qui est très naturel, en fait.
Mmh.
Et c'est vrai que, voilà, faut savoir s'adapter.
Ben oui, après, c'est ça. Il faut faire preuve de jugement, puis s'en remettre à Krishna pour...
Exact. Mmh.
Voilà. Alors, c'est ça. Moi, je continue mon écriture dans le Upadeshamrita. Je suis dans le mantra 3. Chaque mantra est un cahier, là. Ouais. Alors, on est dans le troisième mantra. Ça s'en vient bientôt. Là. Probablement, bon, on va dire pour le mois de septembre, on commencera des cours sur le Upadeshamrita, quelque chose comme ça. Alors, je ne veux pas comme précipiter, disons, ce genre de cours-là, parce que je veux me laisser une certaine marge de manœuvre pour jeter un dernier regard avant de, disons, d'aller plus loin, si on peut dire. Mais c'est dans le même style qu'on fait actuellement, c'est phrase par phrase, commentaire, et c'est... Je trouve ça très intéressant.
Mm.
Voilà. Alors, et c'est ça. Upadeshamrita, c'est la base pour comprendre aussi les échanges entre les dévots. Ça aussi, c'est important. C'est un livre pour les dévots que Prabhupada a écrit, là. Alors, ça peut être distribué dans le grand public, mais c'est beaucoup plus... Disons, c'est plus pertinent pour des dévots comme tels. Alors, c'est ça. On va commencer ça au mois de septembre. On va laisser l'été passer, puis après, ben, on va y aller comme ça. Alors, si j'ai bien compris, on fera ça le mercredi à 19h le soir. Ça convient?
Oui.
OK.
Est-ce qu'il faut l'écrire la date en ce moment? Est-ce que vous avez une journée pour? Vous savez, tous les mercredis, comment ça, mercredi, quand?
Au mois de septembre. Il faut que je regarde le calendrier. Attends une minute, on va regarder tout de suite.
3, le 10, le 17, le 24.
Parce que la fête du travail, là, ici au Canada, le premier week-end.
Mmh. C'est le lundi, quoi.
Oui. En tout cas, là, j'ai pas le calendrier. Ah, je suis sur le Mac, là, en ce moment. OK. Bon, anyway. Premier mercredi disponible dans septembre. Est-ce que c'est comme ça?
Parfait.
OK. Et Ananda, tu dis c'est le 3 septembre, le premier, c'est ça?
Oui. Le premier, c'est le 3, oui, exact.
OK, et puis ça tombe un mercredi. La fête du travail, elle tombe à quand, là?
Le lundi d'avant, donc le lundi premier.
Ah, lundi premier, OK.
Exact.
Et le Janmashtami, ça tombe quand, ça?
Laisse-moi regarder, calendrier, tac-tac. Voyons, c'est où? Bonne question, on dirait que je le vois pas dans le calendrier Vaishnava.
Attends, je vais le trouver, là.
C'est à quelle heure, mercredi? C'est à 7h.
Ah! Il y a une Ekadasi le 3 septembre. À 19h.
À 19h.
Ouais, à 7h le soir.
Ça va être 5h ici. OK.
Alors. Ton Mastami, ça doit être au mois 12, j'imagine.
Ouais, oui, c'est ça, c'est au mois d'août, c'est le 16.
Oui, le 16 août. Voilà, on est correct pour le mois de septembre. Alors, le 3 septembre. On peut fixer cette date-là. Voilà, 3 septembre. Bon.
Ah, c'est vrai que le mois d'août, il est chargé quand même. Il y a beaucoup de...
Ouais, c'est les fêtes, c'est parmi les fêtes les plus importantes de l'année. C'est ça. Là, ici, c'est au mois de septembre. Ah, pas au mois de septembre, au mois d'août. Voilà. OK, alors on se fixe pour le 3 septembre.
Vous allez passer toujours ça dans le Namahat.
Oui.
Namahata, aussi.
Oui, Namahata, il y aura un lien. Et puis, il y aura aussi le fichier PDF, comme on fait en ce moment, là, pour afficher les textes.
Parfait.
Et puis, on sera en voiture à ce moment-là.
Et que, toutes les deux semaines, le samedi, il y a toujours des cours. Vous avez juste subi le mercredi.
Moi, je pense qu'on pourrait le faire toutes les semaines. Le Padishah Merita. Mais le Yishur Panishad, ça, toutes les deux semaines.
On continue alors.
Oui, on continue comme on va là.
OK.
Mais l'autre, je pense qu'on peut, on peut essayer, en tout cas, le faire toutes les semaines, mercredi soir. On fait comme ça. On va commencer par un cours, puis on va voir comment ça va se faire. Il y a un commencement à tout.
C'est ça, il faut lancer la chose.
C'est ça.
Si Krishna le veut,
lancer la machine.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Avec Krishna, tout le monde.
Avec
Krishna.
Bonne
semaine.
Merci beaucoup et dans deux semaines.
Allez, bon.
More and...